Tu vas parler de la distribution de façon de distribuer des jeux plus originalement en France. Je te laisse te présenter, ça te va ?
Bonjour, donc sans transition après cette première partie sur la manière de concevoir les jeux plus sobrement, on va parler de distribution. Donc moi, je suis Mika Forêt, je dirige une société qui s'appelle Metabolic et un pionnier dans la distribution digitale puisqu'on est avant on a été créé en 2001. Et aujourd'hui, on opère un site de téléchargement de jeux qui s'appelle Games Planet, où on peut télécharger ces jeux PC en fait. Et donc, la question de notre empreinte environnementale, on s'est posée il y a un petit moment déjà. Alors, moi, en toute humilité, je n'ai rien d'un spécialiste, je suis juriste au départ. Et donc, quand je me suis interrogé sur notre impact, je n'y connaissais strictement rien et je ne savais absolument pas répondre à la question. Et pour tout vous dire, je ne sais toujours pas. En revanche, j'ai un peu amélioré ma compréhension du sujet et par rapport à ce qu'on a entendu en première partie, je veux dire que j'aborde ces questions de manière assez pragmatique en essayant de m'appuyer sur les chiffres, sur un bilan carbone et autres d'ailleurs, pas que le carbone, on en parlera. Alors, pour vous présenter un peu qui on est, moi je me présente toujours comme un indépendant, dans le sens où aujourd'hui la messe est un peu dite en matière de distribution de jeux PC. C'est essentiellement dominé par les plateformes américaines ou chinoises, en tout cas pour le monde occidental américain. Tout passe quasiment par Steam. Il y a quelques concurrents, je pense notamment à GOG et Epic. Il y a quelques stores, Microsoft Store, etc. Mais on va dire que le marché est essentiellement détenu à 90% par Steam. Donc quand on parle de distribution de jeux PC, on parle de jeux qui sont sur les serveurs de Steam. Donc nous, on est indépendant par rapport à ça et agnostique, puisqu'on distribue des clés Steam ou des clés Microsoft ou des clés Epic, etc. Donc, ce qui est intéressant quand on est distributeur, c'est que finalement, le débat précédent sur la manière dont on peut faire des jeux ayant un moindre impact, c'est pas vraiment notre question. Et en même temps, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça nous impacte directement. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai compris assez vite et qui est extrêmement douloureux, c'est que moi, mon modèle économique, c'est de vendre beaucoup de jeux. Et si jamais je vends beaucoup de jeux, j'augmente mon impact carbone. Et alors je peux faire ce que je veux, hein, manger des carottes, pas aller à la GDC, je peux décider de mettre tout le monde au télétravail, et même de passer du PC au boulier, mon empreinte va augmenter. Et elle va augmenter de manière drastique. En fait, ça a été dit par Chloé tout à l'heure, mais ce qui fait le gros de l'empreinte carbone d'un jeu vidéo, c'est son utilisation. Et quand je dis gros, nous, dans nos calculs, ça monte à 97%. Donc en fait, si je me mets à distribuer des jeux, ou si tout simplement les jeux que je vends chez moi sont des jeux qui ont un très très gros impact d'utilisation, qui sont un peu utile parce que gros GPU, grosse consommation électrique, grosse empreinte aux États-Unis par exemple, où l'électricité est très fortement carbonée, moi mon bilan carbone il est mort, et j'ai beau faire ce que je veux, ça n'a aucun impact. Donc c'est un peu compliqué quand on est distributeur de se dire je vais travailler à réduire mon impact quand on sait que finalement on est dans les purs de peu près 3%, on a la maîtrise de peu près 3%. Voilà, alors ça c'est une introduction assez pessimiste. Mais ça ne m'a pas empêché de ne sachant pas au départ tout ça, ça ne m'a pas empêché de commencer à poser des questions. Donc j'ai fait comme tout le monde quand on est censé faire un bilan carbone, j'ai posé mes données, alors je vous les donne là. En gros, quand on commence un bilan carbone, on analyse tous ces flux, on regarde le résultat de son activité, et puis on essaie de le mettre dans un fichier Excel dans lequel il y a des facteurs d'impact, on fait des multiplications, puis ça donne des résultats. Et c'est là qu'on apprend ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors c'est un peu décousu par rapport à ma présentation, je ne sais pas si tu peux avancer. En fait, c'est le résultat du bilan carbone de Metabolie. Donc, en fait, on a, ce que je vous disais tout à l'heure, plus de 90 000 tonnes de carbone qui sont liées à l'usage des jeux. Et donc, bon, après, il y a le détail ici par flux, mais ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce fameux résultat pessimiste que je vous ai donné. Et cette constatation, c'est que je suis un site capitaliste. Je cherche à vendre le plus de jeux possible. Et plus je vais vendre des jeux, plus je vais avoir un impact qui est important. Donc, ça m'a conduit en fait à me dire qu'est-ce que je peux faire. Et j'en ai déduit trois choses. C'est ça que je vais partager avec vous. La première, c'est qu'on a un peu l'obligation de montrer l'exemple si on a la prétention de réduire son impact. Et donc sur les fameux 3% dont j'ai la maîtrise, essentiellement on va dire mes outils de constitution de site et mes outils de fonctionnement, mes propres PC, mes employés, etc. Je peux avoir un impact. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que là où j'ai un impact, je fais généralement des économies de coûts. C'est-à-dire que si je suis pertinent pour réduire mon impact, bah, je vais vachement améliorer ma rentabilité de prod. En fait, si je mets tout le monde au télétravail, en règle générale, je gagne un petit peu. Il y a un effet rebond sur le télétravail. Il ne faut pas non plus fantasmer le fait que c'est un impact positif. Mais évidemment, j'ai un impact plus faible si j'évite tous les trajets aller-retour quotidiens. Maintenant, c'est aussi une sacrée réduction de coûts. Donc en fait, le fait d'optimiser la partie qui est sous mon contrôle, c'est essentiellement, et c'est vrai aussi pour la production de jeux vidéo, c'est que si j'étends la durée de mes PC, si je fais du télétravail, si je ne vais pas à la GDC, etc., en règle générale, je fais des économies hyper significatives. Donc en fait, ça, c'est la partie hyper facile, celle que j'appelle donner l'exemple, montrer que sur ce que je maîtrise, je réduis mon impact. En règle générale, on le fait tous volontiers. Et sur la partie où je n'ai pas d'impact, c'est-à-dire la partie utilisation des jeux, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et la première des choses, c'est que je peux commencer à parler des jeux qui ont un impact positif au niveau du contenu. Donc, on a parlé un peu de ce sujet-là. Et moi aussi, j'ai eu les interrogations que se sont posées les panélistes de tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que, à travers ce que nous, on a appelé des éco-tags, donc en fait, cette volonté de trouver dans les jeux des pictogrammes qui permettent à nos utilisateurs d'aller les chercher, si c'est ce type de thématique qu'ils cherchent à avoir dans un jeu, d'aller les chercher directement dans notre catalogue. Est-ce que en faisant ça, je ne fais pas un peu du greenwashing? Bon, j'ai essayé d'y répondre. Ça a été un long cheminement. Au début, je ne voulais pas le faire. Oui, donc Lookup, moi, ça m'a assez convaincu. Mais bon, il y a plein d'exemples. Ça s'appelle du soft power. Soft, c'est léger. On ne va pas dire que c'est un impact totalement concret, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est des petites graines qu'on met dans les cerveaux des gens. Et puis surtout, une des vraies interrogations qu'on avait au départ, c'est est-ce qu'en faisant ça, on va avoir assez de contenu pour nourrir cette ambition en fait? Est-ce qu'il y a assez de jeux qui sortent tous les jours pour dire il y a des thématiques environnementales dans suffisamment de jeux pour que ce soit intéressant? Et en fait, on fait ça depuis maintenant 3 ans. On a des centaines de jeux au catalogue qui sont éco-tagués. On a des dizaines et des dizaines d'articles hyper intéressants sur comment est traitée la biodiversité, comment sont traités les pesticides, comment est-ce qu'un jeu de farming aborde ces questions. Enfin, un nombre incalculable en fait de créateurs et de jeux qui abordent des questions, la pollution plastique, les océans, enfin bref. Et donc, rien que pour ça, rien que pour mettre en avant toutes ces interrogations, ça nous a paru intéressant d'avoir des éco-tags. Après, le troisième axe qui nous paraissait important et sur lequel on a le plus travaillé et qui, je pense, moi, a le plus d'impact, c'est le fait d'imaginer de l'affichage environnemental pour le jeu vidéo. Donc, en fait, quand on a commencé à se dire que plus on vendait des jeux, plus on on avait l'impact. C'était important pour nous de dire, est-ce qu'on est capable de dire dans notre catalogue quels sont les jeux qui ont moins d'impact que la moyenne, qui sont beaucoup plus vertueux que d'autres. Donc là, je ne m'intéresse pas du tout à son contenu, je m'intéresse réellement à la capacité de chiffrer l'impact d'un jeu vidéo, sachant que, encore une fois, il est au niveau de son utilisation. Et donc, l'utilisation d'un jeu vidéo, ça veut dire quoi ? L'impact de l'utilisation d'un jeu vidéo, ça veut dire que je suis capable de ramener sur une heure de jeu vidéo joué, sur ce jeu-là, quel est l'impact en fait de l'amortissement de la machine que j'utilise et quel est l'impact de la consommation électrique de la machine que j'utilise. Sachant que cette consommation électrique, le thème de la première conférence c'était en France, je crois que c'est aussi en France, la mienne. Alors en France, on a un avantage, c'est que l'électricité est très décarbonée. Et donc une heure de jeu vidéo de Call of Duty en France, c'est pas pareil qu'une heure de Call of Duty en Chine ou aux États-Unis. Bref, ce que je cherche à vous expliquer, c'est que pour faire de l'affichage environnemental, et c'est là qu'on s'est beaucoup rejoint avec Giros, il faut des données scientifiques en fait, il faut une approche scientifique. Et il y a beaucoup de gens qui veulent parler d'écologie, mais sans avoir en fait une base scientifique non pas parfaite, hein, parce que très franchement, un bilan carbone, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais quand on fait un bilan carbone, on a des facteurs d'erreur qui montent à 60%, même des facteurs d'erreur à 90%. Donc on fait des bilans carbone, tenez-vous bien, on fait des bilans carbone dans les entreprises, il y a 90% sur certains facteurs d'impact, 90% d'erreur. C'est-à-dire, c'est un peu comme si je vous disais, on doit mouiller, quel est l'impact de... Et on fait ça à chaque fois qu'on ne sait pas, on prend le coup d'une ramette de papier, on met ça avec... Enfin bon, bref. Donc, il faut beaucoup d'humilité, c'est ça que je veux dire, beaucoup d'humilité dans la manière de s'y prendre, mais si on a l'ambition en fait d'être capable de guider le consommateur sur ce qui a le moindre impact, il faut d'abord que toute l'industrie se mette d'accord sur ce qu'on mesure et la manière dont on le mesure. Et ça c'est vraiment fondamental. J'entendais encore tout à l'heure qu'il y a des solutions concurrentes de Giros. C'est vrai qu'il y a des solutions concurrentes de Giros. Le seul problème, c'est que la plupart des calculateurs, on ne connaît même pas la base du calcul. C'est-à-dire, on ne sait même pas quelle est l'entièreté du cycle de vie du produit qui est pris en compte. Il y a encore des calculateurs, tenez-vous bien, et des calculateurs qui vous donnent des résultats sans intégrer le scope 3, c'est-à-dire sans même intégrer l'utilisation, donc sans même intégrer les 97% d'impact, par exemple dans le cinéma. Donc, quand on a ça, en fait, on parle de quoi ? Donc c'est hyper important en fait d'avoir une mesure et d'avoir une méthode sur laquelle tout le monde s'entend pour pouvoir faire finalement du Nutri-Score du jeu vidéo. Je ne sais pas si les gens sont dans cette salle sont au courant de comment est construit un Nutri-Score par exemple, mais le Nutri-Score qui s'appuie sur une méthode qui a réussi à faire l'objet de normes, etc., bah, vous avez encore des acteurs qui disent « Oh, bah, moi, ça note mal mon produit, donc j'en sors. » Donc ça, c'est très compliqué, parce qu'on peut pas... Si tout le monde ne joue pas le jeu et si on n'a pas une règle commune, c'est impossible, en fait, de parler d'affichage environnemental. Donc, quand on a eu cette idée, on s'est dit « Il faut deux choses. Il faut, un, arriver à avoir ce consensus. » Et donc, on a besoin de travailler sur des normes, et notamment, c'est ce qu'on fait avec l'ADEME, en essayant de mettre en place le fameux référentiel, le fameux RCP dont parlait Chloé tout à l'heure. Et par ailleurs, on a besoin d'avoir scientifiquement une base qui permet de dire « Oui, c'est vrai, quand je prends un jeu, j'ai suffisamment de données que je peux transformer grâce à un facteur d'impact en un résultat. » Et il faut que ça, cette méthodologie, elle soit connue, elle puisse être enrichie, critiquée par tout le monde, et qu'à la fin, elle fasse consensus. Donc il n'y a que comme ça qu'on peut faire un affichage environnemental. Et donc c'est dans cette démarche-là, en fait, que notre feuille de route s'est établie, parce que c'est ça qu'on cherche à faire avec GamesPlanet, pour arriver à un résultat de ce type, qui prendra en compte à la fois la taille du jeu, à la fois la machine à laquelle il est destiné, et à la fois la consommation électrique sur une heure qu'il est censé avoir. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on réussit ce tour de force ? En fait, on a un avantage énorme dans l'industrie du jeu vidéo, un avantage que n'ont pas les autres industries, c'est qu'en fait, on a déjà une norme qui est utilisée par la profession, qui s'appelle les spécifications minimum recommandées pour un jeu. En fait, comme c'est très compliqué de savoir si un jeu va tourner sur la multitude de configurations PC possibles, les éditeurs ont l'obligation, titre de leur obligation de fournir les caractéristiques spécifiques du produit, en fait, ils ont l'obligation de fournir une carte d'identité de la machine qui est nécessaire, ou minimum nécessaire, pour faire fonctionner le jeu. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte en travaillant le sujet, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces spécifications minimum ? Il y a un GPU, donc une carte graphique, un CPU, un CPU, de la RAM et une taille de disque. Et en fait, le gros avantage de tout ça, c'est que ça, ce sont les critères déterminants pour justement faire une analyse environnementale. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable, en partant d'un GPU, d'un GPU essentiellement, d'avoir une connaissance assez fine. Alors, encore une fois, beaucoup d'humilité dans ce que je dis. Quand je dis assez fine, c'est qu'on est capable, avec une marge d'erreur qui on va dire qui est entendable. Mais encore une fois, il est nécessaire qu'on soit d'accord sur la méthode. Mais à partir de là, on traite tous les produits de la même manière. Et on est capable aujourd'hui, il y a des facteurs d'impact qui sont capables de prendre en compte un GPU en particulier, son niveau de gravure, la matière dont il va utiliser, également la consommation électrique moyenne à laquelle il est censé servir, de façon à pouvoir arriver à ce fameux EcoGaming Score. Donc c'est ça que nous on défend. On n'est pas encore arrivé à le mettre en place, mais c'est en cours. C'est long, mais c'est en cours. Voilà ce que je voulais vous dire sur les trois axes que en tant que distributeur, on va dire pragmatique dans cette approche, on essaie de mettre en place. Et une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de le partager avec le plus grand nombre, non seulement avec nos clients, bien sûr, mais également avec toutes les autres parties prenantes. Nous, on travaille avec des fabricants de hardware et on travaille avec des éditeurs. Donc c'est ça que je voudrais rapidement balayer. Première étape en fait, donc nous on s'est inspiré tout simplement de ce que vous aviez sur les frigos et sur les machines à laver en fait. Moi l'idée, en me baladant dans l'Arty, je me suis dit mais tiens, pourquoi, d'ailleurs je me suis posé la question en achetant un frigo je crois, je me suis dit bon bah on est capable de me dire un frigo ça consomme bien, d'avoir une note et tout, donc je voulais faire la même chose sur un PC. Et je me suis rendu compte que sur un PC c'est compliqué parce que le frigo il est... À moins que vous le régliez sans arrêt, vous changez tout le temps la température, mais vous avez un truc sur l'année, et c'est ça qui permet de calculer votre ADCD. Sur un PC, et notamment sur un jeu vidéo, bah, ça varie en fonction du jeu, même parfois en fonction de ce que vous demandez d'afficher dans le jeu. Et puis dans le PC, c'est pareil. Vous êtes en train de faire du Word, vous consommez que dalle, et puis tout d'un coup, vous lancez une vidéo, vous allez consommer plus, et ça. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est très difficile, puisque l'empreinte environnementale de votre PC va être liée à votre utilisation. Mais néanmoins, si on ramène ça à une heure d'un jeu en particulier et qu'on relie ça à la configuration nécessaire, on est donc capable de modéliser, grosso modo, hein, j'ai encore une fois pas dit que c'était parfait, mais on est capable de modéliser des choses à peu près équivalentes. Donc ça, en fait, c'est une arme, je trouve, pas inintéressante, pour pouvoir dire simplement à un consommateur, bah, si tu achètes ce jeu-là, A, B, C, D, E, le jeu il a une empreinte qui est significativement supérieure à la moyenne, A, il a une empreinte qui est significativement inférieure à la moyenne. Alors au premier, lors du précédent panel, on s'est interrogé de savoir, mais est-ce que ça c'est de nature à faire changer d'avis un joueur ? Bah, je vais vous dire, je crois pas. Je crois pas, mais de la même manière, que quand un gars va chez Auchan pour s'acheter un sac de marshmallow et qu'il voit E, est-ce qu'il change son produit ? J'en suis pas sûr, mais il sait. Il sait, c'est encore la même chose que tout à l'heure. Moi, je suis persuadé que ce qu'on fait, c'est qu'on met des choses dans la tête des gens, on les informe, on les rend plus matures. Et la maturité, vous avez tous compris que vous ne l'avez pas gagné dès que vous êtes rentré en maternelle. Donc en fait, la société, elle évolue. Aujourd'hui, on comprend que ce qu'on mange, c'est ce qui fait qu'on va vivre plus ou moins longtemps. Moi, je suis désolé, quand j'étais gamin, je n'avais pas du tout compris. Je bouffais du Nutella et pas ce qui se passe, quoi. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je fais attention à ce que je mange. Bon.
Et ben, je pense que pour les jeux vidéo, c'est pareil. Et donc, si je reviens sur le débat qu'il y a eu tout à l'heure, est-ce que je vais changer ou pas en fonction de ça? Très franchement, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà la maturité et qui changeront, et qui se diront, bah, finalement, moi, tout simplement, ils changent parce qu'ils ne veulent même pas renouveler leur machine. Les machines aujourd'hui qui demandent pour pouvoir faire tourner un jeu, qui demandent des nouvelles cartes graphiques, bah, y a des gens qui vont dire non. Non par conviction, non par manque d'argent aussi. Parce que vous avez vu, ça coûte de plus en plus cher, la RAM, tout le monde va changer de moins en moins. Et puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui nous pousse en tant que développeur à faire des jeux moins gourmands? C'est aussi les économies. Quand vous avez un jeu, quand vous sortez un jeu destiné à la dernière génération de cartes graphiques, quand vous sortez un jeu qui tourne sur toutes les cartes graphiques, vous n'avez pas accès au même marché. Vous avez en règle générale non plus pas, vous ne fournissez pas non plus la même qualité de code. En règle générale, vous allez avoir beaucoup de bugs. Donc, enfin, ça peut se discuter, mais en gros, vous allez si généralement, si vous optimisez le code pour que ça fonctionne sur un certain nombre de configurations faibles, vous allez avoir un code qui est un peu plus équilibré, normalement. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense pas dire trop de conneries là-dessus. Donc en fait, vous avez un énorme gain économique à avoir une approche plus low cost, enfin, destinée à des configurations plus lentes. Donc encore une fois, ce truc, il sert à la fois aux éditeurs, aux développeurs, à se poser les bonnes questions dès la conception, et à nos clients à évoluer. Je pense que ce sera donc, l'information des joueurs, passer dessus parce que j'ai déjà pas mal développé. Et travailler avec les éditeurs, c'est aussi quelque chose qui nous paraissait important, surtout que à partir du moment où on a mis en place ce genre de choses, ce qu'on est capable de fournir aux éditeurs, mais qui est quand même assez nouveau, c'est non seulement on leur communique le niveau de royauté qu'on leur doit à chaque fois qu'on vend des jeux, mais on peut aussi leur communiquer les impacts réels de leurs jeux par rapport à notre clientèle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est relativement nouveau et qui me paraissait particulièrement pertinent à partir du moment où il y avait des règles en termes de reporting éditeur sur justement leurs impacts, notamment sur la partie scope 3 qu'ils maîtrisent rarement, où on était capable en fait de les aider à remplir des obligations réglementaires. Alors il se trouve que ces obligations réglementaires, elles sont un peu décalées dans le temps avec le rabais de l'ambition européenne, etc. Mais ça n'empêche que ça reviendra et que je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant ça en place, on s'intègre dans un écosystème qui aura besoin de réponses sur ces questions-là. Voilà, je ne sais pas si c'est plus court que prévu, mais si vous voulez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on échange autour de tout ça, parce que j'ai dit beaucoup de choses vite. Donc si vous voulez, enfin si vous avez des commentaires ou des réflexions, bah, je serais ravi de les entendre.
Merci pour l'intervention. Bah,
il y avait une question peut-être?
Bon, juste une petite question. Quand pour l'éco-score sur le jeu, comment vous le donnez? Alors, est-ce que vous le faites strictement avec la configuration minimum et vous faites un calcul avec les informations données, genre GPU, disque et tout? Ou bien est-ce qu'à la sortie du jeu, vous faites un test d'une heure pour voir ce que ça consomme? Parce que comme vous l'avez dit, bon, il y a une configuration minimale, mais un jeu, en fonction de ce qu'il fait avec le matériel, il ne consommera pas autant. Ou si c'est un jeu, enfin, en fonction du visuel affiché, ça peut, même si c'est une configuration requise, avec un certain GPU, il va peut-être utiliser 100% de GPU, par exemple. Aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a tendance à certains menus, il va moins utiliser la carte, ou bien en plein jeu, il va utiliser intensivement. Donc oui, est-ce que vous testez le jeu ou c'est juste strictement avec la config minimale qui existait sur le store?
Alors c'est une très bonne question, c'est effectivement, il faut rentrer dans les détails. En fait, l'idée c'est de ne pas avoir à tester le jeu, parce que si on teste le jeu, c'est très compliqué. En revanche, on teste le jeu pour vérifier que les hypothèses qu'on prend en amont, on teste certains jeux, pardon, pour vérifier que, notamment le lien que je fais entre le GPU et la consommation électrique moyenne d'un jeu qui fait appel à tel GPU est pertinente, ça on fait les tests. Mais après, on ne vient pas les redonder. Parce qu'en fait, on ne peut pas mettre un voltmètre sur tous les jeux sur différentes configurations PC. Ça me paraît. Enfin, si vraiment mon idée elle conduisait à ça, c'est mort, on est d'accord. Donc, pour répondre clairement à la question, ce qu'on a essayé de mettre dans le RCP, donc dans la fameuse méthode qui est importante, qu'il soit un consensus pour qu'on puisse arriver à ça, c'est de dire que qu'est-ce qu'on prend en compte pour vraiment prendre la mesure de l'éco-conception réalisée par le développeur. En fait, les choix du développeur, ce sur quoi il a la main, qui permettent de faire un produit qui a le moins d'impact possible. Et là, en fait, on a énormément de brouillard. Pourquoi on a énormément de brouillard? Parce que comme vous venez de le dire, lorsque je sors un jeu, son impact, si je prends tout en compte, tous les périphériques et tous les choix que fait l'utilisateur, pas le développeur, l'utilisateur. Si, en fait, vous prenez un jeu qui a la plus petite empreinte, parce qu'il est vraiment tout petit, c'est un jeu en 2D, il a été extrêmement bien codé, mais que vous l'affichez sur une télé de salon avec une diagonale de 2 mètres de diagonale, et ben vous allez avoir une empreinte environnementale absolument dégueu. Surtout si vous faites ça en Chine. Donc en fait, on ne peut pas mesurer ce critère d'éco-conception en acceptant de prendre des choix, trop de choix adverses, enfin, trop de choix d'un tiers. Et donc, pour le mesurer, ce qu'on a essayé de mettre dans le RCP, c'est qu'on prend en compte ce sur quoi le développeur va travailler. Et en fait, il peut travailler. Donc effectivement, je sors l'écran. Ça ne veut pas dire que je considère qu'il n'y a pas d'impact de l'écran. Ça veut dire que je ne prends pas ça en compte dans mon affichage environnemental, parce qu'en fait, c'est trop variable. Et c'est encore un choix qui dépend du consommateur. Donc en fait, si vous achetez un jeu A, entre guillemets, on n'aura pas mis l'écran dedans. Et c'est tout à fait correct, tout à fait cohérent dans la démarche. Après, vous savez que vous avez un jeu A, et vous pouvez très bien le saloper en le projetant sur une diagonale de 6 mètres. Et c'est vrai aussi dans la manière dont vous allez régler vos paramètres du jeu. Si vous mettez tout en ultra, forcément, vous allez avoir un impact supérieur que si vous le mettez dans des paramètres réglés par défaut du développeur pour la configuration minimum qu'il a prévue. C'est vrai aussi si vous faites tourner le jeu qui tournerait sur une configuration bien plus faible que votre super nouveau PC que vous utilisez pour le faire tourner. Et donc il ne faut pas que ça crée ce que moi j'appelle du bruit dans l'analyse. Donc en fait, on essaie de rester en labo et on se dit la responsabilité du développeur, c'est de garantir, ça c'est la conformité, enfin c'est le droit à la conformité du produit. Donc en fait, on s'appuie sur ce qui existe déjà de façon à ne pas être obligé à faire des tests ou des contre-tests ou des trucs qui seraient un coûteux et puis deux qui ne relèvent pas de. On ne peut pas faire ça. Enfin, peut-être que demain, si demain on a vraiment des gros problèmes de sobriété numérique, il y aura peut-être un gendarme de la consommation électrique. Mais aujourd'hui, moi, ce n'est pas mon rôle.
Ça paraît compliqué. Voilà. Ça sort tellement de jeux chaque jour, c'est compliqué de tous les tester. Ça fait penser un peu au test pour le Steam Deck, là. On se demande comment ils font pour tous les tester pour avoir le temps pour.
Bah c'est une bonne question, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Mais en tout cas, j'espère que j'ai répondu à votre question. L'idée, c'est encore une fois assez pragmatique, et c'est de s'appuyer le plus possible sur des facteurs d'impact qui existent et qui prennent en compte les CPU et les GPU qui sont liés à la configuration minimale. Mais c'est vrai que c'est un débat qu'on a eu en interne très souvent. Est-ce qu'il faut prendre la configuration minimum? Est-ce qu'il faut prendre la configuration recommandée? Est-ce qu'il faut prendre même la configuration dite optimale? C'est-à-dire finalement faire un choix de moyenne en fonction, mais ça évolue en fonction du temps. C'est-à-dire c'est quoi le parc sur Steam en moyenne des GPU, etc. Il y a plein de possibilités, mais comme je le disais en introduction, il faut être pragmatique et il faut accepter d'avoir les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Donc moi, ça me paraît l'approche qu'on a proposée. Le RCP, elle permet à n'importe qui en fait, de faire les options qu'il veut. Mais il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se prendre des cafés.
C'est peut-être pour rajouter un point sur lequel on n'a pas trop parlé, mais évidemment, on est obligé de donner des critères et des informations sur là où ils ont de l'influence. Mais du coup, il y a quand même, comme on dit, il y a énormément de choses qui dépendent de l'utilisation des joueurs. Mais quand on voit aujourd'hui toutes les boîtes qui mettent en place des écomodes, par exemple, et qu'elles mettent par défaut dans les options, les trois quarts des joueurs, ils les gardent. Ils gardent les options par défaut, des commodes, etc. Donc il y a quand même des choses que les studios peuvent faire pour influencer les joueurs, ne serait-ce que mettre des options d'opt-in pour dire bah, tiens, si j'ai envie d'avoir un mode un peu avec des performances réduites, etc., tiens, je vais réduire, je ne vais pas utiliser le full frame rate de mon écran 5K, il y a des choses sur lesquelles ils peuvent agir. Alors c'est difficilement mesurable, on ne mesurera peut-être pas, mais par contre, en tant que studio, vous avez quand même, des choses que, enfin, qui permettent de l'influencer.
Après, peut-être pour conclure, moi, encore une fois, je n'ai pas la science infuse et je ne dis pas que c'est la seule, solution, mais ce que je vois, c'est que le jeu vidéo, bien sûr, c'est un impact, hein, c'est numérique, c'est un impact. Après, c'est un impact qui est encore, il faut revenir, il faut tout remettre dans les bonnes proportions. Aujourd'hui, le bilan carbone de la France, il est très peu impacté par le jeu vidéo, hein, pour être très clair. Très très peu impacté. Avant, il y a l'agriculture, la construction. Bon. Donc, on ne va pas se flageller non plus. On n'est pas l'industrie qui dératise tout sur notre passage. Donc, on a un peu le temps. Enfin, on avait, on va dire, je n'aime pas trop dire ça, mais en gros, il faut quand même rester pragmatique. Et effectivement, l'idée de dire on va renverser la table du jour au lendemain, bah, c'est inaudible en fait. C'est tout simplement inaudible. C'est-à-dire que si vous venez avec cette prétention-là face à l'industrie, bah, vous arrêtez de travailler en fait. Il n'y a plus personne qui vous écoute. Puis on va être très clair, hein, je veux dire, c'est, à part Ubisoft en France, les poids lourds. Vous les convaincrez pas. Donc, y aller de manière frontale en disant il faut renverser la table et c'est de cette manière-là qu'on va forcément y arriver, ça ne marchera pas. Donc, moi je suis assez persuadé qu'il faut prendre le temps de convaincre et de s'appuyer sur des approches pragmatiques de ce type en fait. Et c'est pour ça que commencer à afficher les écotags, l'éco-gaming, mettre en place un RCP, etc. Ça me paraît être en fait, c'est triste à dire parce que certes, on va dire au moins la maison brûle, mais ça me paraît être en fait la bonne échelle. On peut en discuter, hein, mais encore une fois, à vouloir aller trop vite, je crains qu'on soit inondé. On conclut sur ces bonnes paroles.
Vous avez l'impression justement que les plus grands lobbies que vont voir sur des étiquettes peuvent être intéressantes pour les consommateurs, comme les grosses industries ne vont pas pouvoir faire du greenwashing, justement ça peut créer des choses qui ne sont pas forcément comme la valeur tout à l'heure, et du coup utiliser pour que faire une pub pour eux-mêmes en disant regarde, on peut faire ça, alors finalement c'est pas vraiment ce qu'on peut.
Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais je la reformule. Vous voulez dire qu'il y a... Alors, moi, je vois tous les jours qu'il y a des pressions pour que on ait une approche moins enveloppante pour qu'il y ait des biais. Si c'est ça que vous voulez dire, alors ça, clairement, effectivement, il y a encore aujourd'hui des grands groupes dans le jeu vidéo qui ne mesurent pas le score 3, par exemple, qui ne mesurent pas l'utilisation et qui font du lobbying pour que ça reste comme ça. Si c'est ça votre question, alors typiquement oui. Enfin, la réponse est oui.
Alors,
qu'il y ait des tentations d'aller dans ce sens, je pense que c'est inhérent, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on peut être confiant dans le fait, il me semble en fait que cette approche, avec la méthode et la base de calcul qui est publique, commune, et sur laquelle évidemment ils vont pouvoir essayer de... Parce qu'un RCP c'est fait pour évoluer, donc il y aura sûrement du lobby pour venir dire qu'il faudrait sortir la partie utilisation, etc. Mais bon, je pense qu'il y aura beaucoup de réticence à ça. Et ce que je vois, par exemple dans les cosmétiques ou dans l'alimentation, tous ceux qui essayent de faire du lobbying un peu trop marqué, je pense par exemple à la charcuterie avec qui ne voulait pas que Yuka mette l'impact des sulfates, enfin je sais plus ce que c'est, le truc cancérigène qu'il y a dans la charcuterie, et que ce ne soit pas noté à travers Yuka par exemple.
Les nitrites de soja.
Les nitrites, pardon, voilà, excusez-moi. Ou la même chose avec un certain nombre de perturbateurs endocriniens dans certains produits garniers, etc., qui apparaissent en fait dans des trucs comme Yuka. Il me semble en fait que très très vite ça se voit. Donc, il y aura sans doute des tentatives, mais encore une fois, si on a une méthode qui est partagée, claire et auquel tout le monde peut se référer, il y aura toujours quelqu'un pour venir expliquer qu'il tire la corde et que c'est pas très crédible. Donc sur cette partie-là, moi je suis assez confiant, et c'est pour ça aussi que nous on prend le temps de faire valider la méthode et que je ne l'ai pas faite moi dans mon bureau avec le peu d'expertise que j'ai, mais que je me suis appuyé sur des cabinets, et que maintenant c'est entre les mains de l'ADEME, etc. Donc ça me paraît important en fait que ça se fasse comme ça. C'est aussi pour ça que c'est très long, parce qu'en fait le RCP dont je vous parle, on l'a initié en 2020, donc c'est long. Mais je pense que ça sera la garantie de réponse à ce que vous dites. Et sur la partie éco-tag, c'est sûr que le contenu, enfin la manière d'aborder les sujets écologiques, et pas, c'est pas parce qu'on a un éco-tag qu'on l'aborde vraiment de manière très pertinente, etc. Et ça, bah, je pense que c'est à nous, avec notre éditorial, de le faire sentir. Et puis aussi au retour des joueurs, vous savez, les joueurs parlent beaucoup, ils mettent des notes, ils mettent des reviews sur Steam qui ont énormément d'impact, par exemple. Et en fait, c'est pareil, c'est des sujets que j'aimerais bien, moi, voir débattus aussi dans les forums, de façon à ce que ça fasse sens. Mais en règle générale, ça c'est assez vite, en fait. Si un jeu est pertinent, qui crée de l'émotion, que ça c'est bien, quoi. Et puis après, c'est le rôle de l'éditeur de le mettre en avant, de le promouvoir. Et puis du distributeur, nous évidemment, on a nos chouchous et on les met en avant.
J'avais deux petites questions. La première, c'est d'abord, est-ce que vous avez envisagé, mais est-ce que c'est possible de mettre cet éco-gaming sur l'ensemble des plateformes qui utilisent le jeu ? Parce qu'on a parlé de PC, de console, mais en réalité, en termes de chiffres, le smartphone est bien devant. Et si on veut toucher, justement, pour essayer de planter de petites graines dans la tête des joueurs et des joueuses, ce serait peut-être passant par le smartphone qui serait plus intéressant en fait. Hein. C'est un peu planter des radis, c'est-à-dire que en fait, on lance large et puis on regarde ce qui pousse. Via le smartphone, ce serait plus simple. Et deuxième petite question, vous l'avez pensé comme quelque chose de géographique, de territorial, dans le sens, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça peut marcher par exemple dans le cas du mix énergétique français, parce que à 70% nucléaire, donc décarboné. Mais je prends un jeu et je pars en vacances avec en Pologne, où là on est à près de 30% de charbon dans l'électricité. Finalement, le score ne va pas être le même pour le même jeu avec les mêmes régulations. Est-ce que ça, vous pensez le faire à long terme ou on reste vraiment dans un cadre purement consommation française ?
Ok, alors il y a deux questions. Donc, sur la première, sur la prise en compte au niveau du mobile. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'approche, elle fonctionne aussi sur le mobile, même si c'est effectivement pas mon sujet d'expertise. Et sur le mobile, il n'y a pas le système requirement minimum. Hein. Mais par contre, il y a quand même une référence à un OS sur un type. Donc il y a quand même des références. Aujourd'hui, Geros, pour faire donc Geros couvre aussi le mobile, et ils utilisent une approche à peu près similaire sur les requirements techniques qu'il vous faut sur l'application mobile. Donc ça marche aussi sur le mobile, même si moi, alors de manière très humble, ce ne sera pas sur mon site et je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, dans le RCP et dans cette approche, ça fonctionne, ça peut fonctionner. Donc, et c'est vrai que c'est important parce que le mobile, c'est 50% du marché, donc c'est hyper important. Ça marche aussi sur la console, parce que la console, c'est ni plus ni moins qu'un PC. Alors bon, je sais que maintenant, il y a le PlayStation Pro, etc. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une spécification minimum figée pour le coup, donc c'est encore plus simple. Et quand c'est pro, ben c'est recommandé, on va dire, c'est ultimate. Bon. Donc ça marche dans tous les cas. Moi, je ne le conçois pas comme un produit exclusif. Le RCP il est public, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc, quand je disais montrer l'exemple, l'idée c'est de nous distinguer en étant un pionnier, en apportant quelque chose, puis après les gens s'en emparent ou pas. Est-ce que j'ai répondu à vos questions?
Oui.
Voilà. Donc, et sur la géographie. Alors sur la géographie, en fait, je crois pouvoir dire sans me tromper que ça n'a pas d'impact, parce qu'en fait, évidemment qu'il ne faut pas mélanger les choux et les carottes, mais dans la méthode, ce qu'on fait, c'est que soit on prend en compte une population donnée. Donc on va le faire comme vous venez de le faire, on va comparer la Pologne à la France, et donc on va avoir un écotag pour la Pologne, un écotag pour la France. Bon. Je crois que c'est comme ça que ça marche avec les frigos et les trucs. Et en fait, ça ne change rien puisque on compare des jeux entre eux sur un périmètre similaire. Donc si l'utilisation elle est carbonée, si j'utilise je ne sais pas combien de kilowatts d'électricité à l'année, enfin, c'est à l'heure, ça va être un peu moins que ça, mais enfin on se comprend, on compare par rapport à eux et on compare sur un même périmètre. Donc que vous le fassiez sur des jeux qui sont joués en Pologne ou sur des jeux en France, vous allez avoir le même éco-score. Après, on peut aussi décider, puisqu'on a les données, le mix énergétique en fait en fonction de l'audience. Hein, vous savez, quand vous vendez sur Steam, pareil que sur Games Planet, vous savez si vous avez vendu 25% aux États-Unis, 25% en Chine, 3% en France, etc. Donc ce mix énergétique, vous pouvez soit l'appliquer à tous vos jeux, soit l'appliquer à la réalité de votre jeu. Enfin, vous pouvez avoir une granularité qui peut être assez claire, de façon à arriver après. Parce que c'est vrai, vous avez raison, si je fais un jeu chinois qui va être joué essentiellement par des Chinois, au final, indépendamment de ces critères techniques purs, le mix produit va avoir un impact. Bon, on peut éventuellement mettre ça. Moi, je l'ai dans l'approche, je ne le conçois pas forcément comme ça. Par contre, je disais, qu'est-ce que je peux faire dans ma relation avec les éditeurs, et donc quand je leur communique leur impact lié aux royautés que je leur verse, là par contre je fais bien le mix produit qui colle avec la royauté que je leur distribue et qui colle avec en fait l'empreinte territoriale que mes clients ont eu dans l'usage de leur jeu. Donc on peut répondre à toutes ces questions de manière assez granulaire. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention.